Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir chers amis auditeurs, en ce dimanche 4 avril 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Zarif à Le Drian, cessez l'application des sanctions illégales des États-Unis. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, accord nucléaire, Zarif appelle la France à respecter ses engagements. Document de coopération Iran-Chine, un avertissement aux États-Unis, selon Mohammad Borrell Ghalibaf, le président du Parlement iranien. Et puis la sécurité a été renforcée au Capitole américain à Washington DC à la suite d'une attaque meurtrière contre un point de contrôle de la police vendredi. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a appelé la France à respecter ses engagements dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue français, Zarif a exhorté Paris à adopter une position constructive lors de la réunion de la semaine prochaine sur la préservation de l'accord historique. Il a également appelé le gouvernement français à cesser d'appliquer ce qu'il a appelé des sanctions illégales des États-Unis contre l'Iran. De son côté, Jean-Yves Le Drian s'est félicité de la reprise des négociations sur l'accord nucléaire, connu sous le nom de Plan global d'action conjoint. Le Drian a exhorté Téhéran à mettre un terme à l'annulation de ses engagements nucléaires. L'Iran se dit opposé à une reprise progressive de l'accord, ajoutant que la politique définitive de Téhéran consistait à faire lever toutes les sanctions imposées par les États-Unis. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré que Téhéran n'aurait aucun pourparler ni direct ni indirect avec les États-Unis, alors que les signataires de l'accord sur le nucléaire de 2015, plus un représentant des États-Unis, se préparent à se réunir mardi à Vienne. Abbas Araghchi a fait ses commentaires après avoir informé la Commission de la sécurité nationale de la République islamique d'Iran des discussions à venir. L'ancien président américain Donald Trump a unilatéralement quitté le plan global d'action commun sur le nucléaire de 2015 PGAC en 2018 et a réimposé les sanctions à l'Iran. Un an après la violation du pacte par Washington, l'Iran a pris des mesures correctives pour réduire ses engagements liés au pacte au titre même du PGAC. Le plan de réduction graduelle des engagements en réponse au retrait unilatéral des États-Unis du PGAC reste réversible à tout moment, insiste l'Iran, si les autres partenaires signataires qui n'ont pas tenu leurs engagements répondent aux revendications légitimes des Iraniens liées au pacte. Pour Téhéran, les avantages économiques prévus par l'accord sont essentiels pour revenir sur ces mesures de rétorsion nucléaire qu'il a prises. La signature du document de coopération Iran-Chine est un avertissement important aux États-Unis pour qu'ils se rendent compte que les relations internationales évolue rapidement au détriment des États-Unis et qu'ils ne sont pas en mesure d'imposer unilatéralement un modèle, un programme ou un accord aux États indépendants, a déclaré le président de l'Assemblée iranienne lors de son discours d'ouverture au début de la saison spéciale de l'Assemblée iranienne à l'occasion de la signature du document de coopération globale entre l'Iran et la Chine. Mohammad Borrell Ghalibaf a déclaré: la signature de ce document signifie que le monde ne se limite pas à l'Occident et ce siècle est celui de l'Asie. L'accord Iran-Chine aurait pu être signé plus tôt. Il est nécessaire de façonner une véritable coopération économique et politique, ainsi que pour contrer efficacement les pressions oppressives des États-Unis. L'occasion doit être saisie pour transformer ce document en véritable projet économique et politique, tout en préservant les intérêts nationaux. Ce modèle de mise à niveau des relations à un niveau stratégique doit être conçu et mis en œuvre rapidement avec d'autres pays, en particulier avec les pays voisins, a ajouté le chef du législatif iranien. Le commandant des forces terrestres du Corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, a déclaré que les forces de renseignement surveillaient toutes les actions et tous les mouvements aux frontières nord-ouest du pays. En visitant les frontières de la province de l'Azerbaïdjan oriental, au nord-ouest de l'Iran, le général de brigade Mohammad Pokpour a signalé que les gardes frontières étaient pleinement prêts à protéger la sécurité du pays. Soulignant le haut niveau d'esprit de l'état-major installé aux frontières, le général Pokpour a affirmé que la situation aux frontières de la région nord-ouest du pays, en particulier de l'Azerbaïdjan oriental, était bonne et les forces de renseignement et le personnel au sol du CGRI surveillent toute action et mouvement aux frontières nord-ouest. Ils sont tout à fait prêts à contrer tout mouvement contre les frontières du pays, a-t-il conclu. Le président Hassan Rouhani a adressé un message de félicitations à son homologue sénégalais, le président Macky Sall, à l'occasion du 4 avril, la fête nationale du Sénégal qui correspond au 61e anniversaire de l'indépendance de ce pays ouest-africain. Dans son message de félicitations, le président iranien a souhaité l'expansion des relations irano-sénégalaises et une coopération plus étroite entre Téhéran et Dakar dans tous les domaines d'intérêt mutuel, compte tenu de la détermination des hauts responsables des deux pays. Dr. Rouhani a également souhaité la prospérité et le salut de la nation sénégalaise. Lors d'une réunion avec l'ambassadeur du Sénégal à Téhéran en février, le président iranien a salué le Sénégal comme un pays majeur qui peut devenir la porte d'entrée de l'Iran vers les pays de l'Afrique de l'Ouest. Soulignant la nécessité d'une interaction entre les secteurs publics et privés iraniens et sénégalais, le président de la République islamique d'Iran a déclaré que les deux pays peuvent travailler plus étroitement dans les domaines scientifiques, culturels, technologiques et universitaires. Le ministère syrien des Affaires étrangères qualifie les États-Unis de plus grands violateurs des droits de l'homme à l'intérieur et à l'extérieur de leurs frontières. Dans un communiqué, les Affaires étrangères syriennes a rejeté le rapport annuel du Département d'État américain sur les droits de l'homme en Syrie, le qualifiant de mensonge. Pour Damas, il s'agit d'un rapport partial et partiel qui ne contient que des allégations contre des pays qui ne sont pas d'accord avec la politique états-unienne. Selon le ministère, les allégations sur la Syrie s'appuient sur des rapports d'organisations terroristes, de leurs partisans et de leurs soutiens financiers dans la région. La diplomatie syrienne dénonce à cette occasion l'instrumentalisation des droits de l'homme à des fins intéressées et politisées. Elle appelle les États-Unis à ne pas s'imposer en défenseur des droits de l'homme et à ne pas s'exprimer sur la question en raison de leurs antécédents catastrophiques et leur lourd bilan de violation des droits de l'homme dans le monde entier. La France est entrée dans son troisième verrouillage national alors qu'elle s'attaque à une recrudescence des cas de Covid-19. Toutes les écoles et tous les magasins non essentiels fermeront pendant 4 semaines et un couvre-feu sera en place de 19h à 6h. À partir du mardi, les gens auront également besoin d'une raison valable pour sortir et parcourir plus de 10 km de chez eux. La nouvelle vague de la maladie menace de submerger les hôpitaux du pays. La France est actuellement aux prises avec un pic d'environ 5 000 patients Covid dans les unités de soins intensifs. Enfin, la sécurité a été renforcée au Capitole américain à Washington DC, je vous le disais en titre, à la suite d'une attaque meurtrière contre un point de contrôle de la police vendredi. Des travailleurs ont vu l'installation de hautes clôtures de barbelés et des barrières en béton supplémentaires autour du bâtiment du Capitole. Le renfort intervient un jour après qu'un policier ait été tué et un autre blessé dans un accident de voiture. Après l'attaque meurtrière à la voiture Bélier qui a fait des victimes chez les policiers vendredi 2 avril, les parlementaires demandent à revoir le dispositif de sécurité. La sécurité des parlementaires a d'ailleurs été renforcée car ces derniers mois, les menaces à leur encontre se sont multipliées. Récemment, les barrières surmontées de fils barbelés avaient tout de même été enlevées. Mais le dispositif va sans doute être revu en maintenant, par exemple, ces grilles hautes de 3 mètres qui entourent le Capitole. L'attaque est la pire menace pour la sécurité au Capitole, ce symbole de la démocratie américaine, depuis la manifestation meurtrière du 6 janvier où les partisans du président de l'époque, Donald Trump, ont envahi le complexe. Les violences ont fait 5 morts, dont un policier. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Zarif à Le Drian. Cesser l'application des sanctions illégales des États-Unis. Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé samedi soir qu'il avait contacté son homologue français, lui conseillant de prendre une position constructive à l'égard du PGAC, Plan Global d'Action Conjoint. Aujourd'hui, lors d'un entretien téléphonique avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, je lui ai demandé de faire preuve d'une position constructive à l'égard du PGAC lors d'une prochaine réunion à Vienne, a tweeté le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. J'ai exhorté la France à respecter ses obligations au titre de cet accord et à suspendre l'application des sanctions illégales imposées par les États-Unis. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré pour sa part qu'il s'était entretenu au téléphone avec son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, samedi matin. « Je me suis entretenu ce matin avec mon homologue iranien, M. Javad Zarif. J'ai salué la reprise à venir à Vienne de discussions sur le dossier nucléaire. J'ai souligné le rôle constructif joué par le E3 » afin de parvenir à la reprise de telles discussions dans la continuité des efforts déterminants conduits par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni pour préserver le PGAC depuis 2017, a déclaré le patron de la diplomatie française. À l'issue d'une réunion virtuelle avec les autres parties du PGAC, le ministre iranien des Affaires étrangères a écrit dans un rapport sur Twitter « Lors de la réunion virtuelle de la commission mixte Iran-Union européenne, trois pays européens, France, Allemagne, Royaume-Uni, ainsi que la Chine et la Russie, ont convenu de reprendre les discussions en personne à Vienne mardi prochain. Objectif : finaliser rapidement la levée des sanctions et les mesures nucléaires pour la suppression chorégraphique de toutes les sanctions suivies par l'Iran de cesser les mesures correctives. Pas de réunion Iran-USA. Inutile, ont insisté les autorités iraniennes.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors dans le débat d'aujourd'hui, nous allons parler de la Grande-Bretagne et de la France qui cherchent justement à accroître le pouvoir de la police, même si ceci doit coûter et coûte toujours la répression des manifestants pacifiques. Et tout ceci au milieu d'une censure historique médiatique. Voilà. Alors, malgré les interdictions de rassemblement, les Français, tout comme les Britanniques, n'hésitent pas à défier des lois lâches et honteuses qui consistent à accroître le pouvoir de la police, autrement dit, donc justifier la violence policière sans avoir le droit de les filmer. Alors, avant de vous présenter nos deux chers invités, je vous invite de regarder un reportage préparé par mes collègues. On sera avec vous juste après. Voyez, restez avec nous, je vous prie.
Après les manifs anti-lois sécuritaires en France, la vague arrive chez Sa Majesté et ce, au milieu d'une censure médiatique complètement historique. Bristol est à feu et à sang. Voici l'info diffusée par un média mainstream. En Angleterre, on rapporte 10 arrestations à Bristol après une manifestation qui a dégénéré. Vendredi soir, un rassemblement contre un projet de loi renforçant les pouvoirs de la police a viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre anglaises. Une manifestation contre un projet de loi renforçant les pouvoirs de la police a dégénéré vendredi soir à Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre, et 10 personnes ont été arrêtées. Le Premier ministre Boris Johnson dénonçant des attaques honteuses à l'égard des policiers. La majorité des 1000 personnes réunies vendredi pour protester contre un projet de loi prévoyant notamment d'accroître les pouvoirs de la police face aux manifestations non violentes a agi pacifiquement, a indiqué samedi l'officier Marc Renarque, mais une minorité a une fois de plus fait preuve d'hostilité envers les policiers. Des objets, dont des bouteilles en verre et des briques, ont été lancés sur les agents. Des feux d'artifice ont été lancés sur notre section équestre et l'un de nos chevaux a été recouvert de peinture, a-t-il détaillé dans un communiqué de la police d'Avon et du Somerset, dénonçant des comportements violents inacceptables. Au total, 10 personnes ont été arrêtées pour violence et agression. L'une d'entre elles a depuis été condamnée à une amende, tandis que les 9 autres sont toujours en garde à vue, précise le communiqué. Il s'agit de la 3e manifestation qui dégénère en l'espace d'une semaine à Bristol, où la police avait déjà procédé à 10 arrestations dimanche et 14 mardi.
Vous regardez l'émission Le Débat. Alors, comme j'ai promis, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour à tous vos auditeurs et bien sûr à votre invité.
Un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Un grand bonjour à M. Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris. Merci d'être avec nous, M. Hugon.
Oui, bonjour à vos auditeurs, à toute l'équipe et bien sûr à mon ami Pierre Dortiguier.
Je sais que vous êtes ami avec M. Dortiguier. M. Hugon, j'espère que ça ne va pas vous empêcher de vous contredire dans ce débat, car l'émission d'aujourd'hui s'appelle Le Débat. Alors, ma première question va s'adresser à vous, M. Hugon. Vous êtes un homme de terrain, donc vous connaissez bien les manifestations. C'est vrai que dans ce reportage, on a parlé plutôt de la Grande-Bretagne, mais il sera aussi question dans ce débat de la France, qui a utilisé l'interdiction de rassemblement à cause du Covid-19 pour empêcher donc les Français de manifester et de crier leur colère contre ces lois lâches et honteuses qui consistent à justement accroître le pouvoir de la police.
Voilà, alors en ce qui concerne le Covid-19, c'est bien sûr une catastrophe au niveau de la santé publique, domaine sanitaire. Maintenant, on se sert de ce problème-là posé au peuple en loi qu'il aurait été impossible de faire passer ou d'appliquer sur un plan politique. Donc c'est une véritable atteinte aujourd'hui aux libertés, d'autant plus que les gens, depuis un an, maintenant, subissent le d'être cloîtrés chez eux, de ne pas pouvoir sortir. À terme, il est vrai qu'il est difficile de maintenir encore longtemps des gens comme ça dans leur chez eux, sans pouvoir sortir, sans pouvoir. Alors même si la situation sanitaire le veut, et je comprends tout à fait que sur un plan sanitaire, on impose aux gens de rester chez eux et que l'on impose un certain nombre de lois, mais au-delà de ce problème sanitaire, se pose le véritable problème de savoir pourquoi, comment on en est arrivé à des situations comme celle-là, si ce n'est que d'imposer un nombre de lois qui restreignent les libertés individuelles. Il est vrai qu'on a ce problème de surpopulation dans le monde, de surpopulation dans l'Union européenne et en France également. Donc il faudra bien trouver des mesures de façon à ce que l'on puisse maintenir les gens dans un niveau de vie qui soit abaissé par rapport à ce que l'on a connu ces dernières années. Il faut dire que les Français, les Européens et les Occidentaux, d'une manière générale, ont connu une époque extrêmement faste depuis une cinquantaine d'années aujourd'hui. Donc, il est clair que la situation financière dans le monde occidental ne permet plus aujourd'hui de maintenir ce niveau de vie. Et les Français, comme les Européens, ne sont pas du tout prêts à accepter les mesures de la situation financière. Donc, il n'y a rien de mieux qu'une situation sanitaire catastrophique pour imposer un certain nombre de lois qui restreignent les libertés individuelles. Donc, c'est beaucoup plus grave qu'un simple problème sanitaire. Quand je dis simple, entre guillemets, bien sûr, puisque la situation est complexe sur le plan médical, mais au-delà de tous ces problèmes sanitaires, se pose un véritable problème politique, un problème de liberté individuelle qu'on est en train de restreindre, de façon à contraindre les Français à vivre beaucoup plus petitement. Et c'est ça le véritable problème et la question que l'on doit se poser aujourd'hui.
Tout à fait. Monsieur Pierre Dortiguier, vous êtes avec nous depuis Toulouse. Vous avez entendu certainement les propos de Monsieur Hugon concernant cet outil qui a bien arrangé les choses pour les Français, pour le gouvernement français, d'empêcher les rassemblements et de réprimer donc de manière lâche les manifestants qui réclament donc le droit le plus élémentaire, qui est le droit individuel.
Écoutez, j'aimerais bien pouvoir m'opposer à ce que dit M. Hugon, oui. Mais là, je ne trouve pas, disons, les moyens. Je dois dire que j'ai cette situation sanitaire est en effet le cadre, disons, d'une restriction, d'un ralentissement de l'activité et aussi entraîne un grand énervement dans la population. Population jeune, population d'abord des angoisses, des destructions et aussi, il faut aller quand même plus loin, nous savons qu'il y a des suicides importants dans la jeunesse, des suicides parmi les chefs d'entreprise, des gens, enfin, nous le savons aussi par, disons, non pas de bouche à oreille, mais moi je le sais par d'anciens élèves qui sont des policiers, et qui me le disent, et bien sûr ceci apparaîtra, cet énervement apparaîtra, disons, sous une forme, à mon avis, beaucoup plus violente, même anarchique, hein, dans les journées qui viennent. Pour ce qui est des manifestations, si je puis me permettre, auxquelles vous avez fait allusion à Bristol, je dirais que, d'abord, une considération générale pour ceux qui ne connaissent pas l'Angleterre. La personne du policier a toujours été respectée et très protégée en Angleterre. Vous savez qu'il suffisait de tuer un policier pour être condamné à mort, quel que soit le motif de l'exécution. Voyez-vous, on a été pendu. Ceci, je l'ai connu, disons, de mon temps, ce qui faisait que les policiers circulaient sans armes en Angleterre. Vous voyez, chose qui évidemment devient de plus en plus difficile. Quant aux manifestations en question, il est certain que elles sont, je reprendrai la citation que vous avez faite du policier, elles sont motivées, disons, mais ce motif, en réalité, pourrait être en fait un motif d'agitation proposé par certaines sphères pour pouvoir justement enfoncer la société dans des troubles permanents. Par exemple, c'est très facile, nous avons aussi en France des protestations contre le fait qu'on ne puisse pas photographier des manifestations, des policiers. Mais on sait aussi qu'il y a eu pas mal de vengeance, il y a eu des exécutions de policiers par des gens. Il y a aussi, disons, dans des groupes donnés, je crois que personne, ni parmi les manifestants, ni parmi les policiers, ne pourrait, disons, démontrer l'inverse. Il y a également des agents provocateurs qui reçoivent de l'argent doux, c'est-à-dire de certaines forces, certains disent M. Soros ou autres, enfin, qui sont là, nous l'avons vu à Paris, avec les manifestations de Traoré, par exemple, pour pouvoir vraiment provoquer des désordres et instaurer en France, comme en Angleterre, une sorte de défiance générale entre les populations immigrées et les populations de souche. Ceci, à mon avis, est très important. Et je dois dire que je ressens autour de moi, non pas dans, dans mes proches, mais disons en observant des conversations, en entendant des conversations, en observant des personnes qui discutent, il y a une certaine, disons, tension qui est grave. Et je dois dire qu'il y a une responsabilité des gouvernements. Je suis obligé d'être d'accord avec M. Hugon, quand même, je voudrais bien le contredire, mais qu'il y a, disons, une arrière-pensée de la part des gouvernants, voyez-vous, ici, chez nous, européens, en particulier pour pouvoir faire avancer, faire progresser la population dans une sorte de misère confortable. Et cela vous surprendra, mais voyez-vous, ce qu'on appelle le fameux salaire universel, dans ce sorte de recette, comme on dit, de réaménagement économique, me semble être une sorte, de partage du sous-développement. Je dirais, moi-même, étant d'une ancienne génération, ça me fait penser beaucoup au communisme que j'ai connu, au soviétisme que j'ai connu, et aussi en Yougoslavie, en ancienne Yougoslavie, dans laquelle vous avez des gens très riches, et puis des gens ensuite qui des classes moyennes complètement écrasées. Je crois que de ce point de vue, si tous les régimes en Europe au XXe siècle ont chuté, je pense que la vague bolchevique, si je puis dire, elle a un deuxième souffle. Et malheureusement, j'aimerais bien ne pas le dire, mais je suis obligé de le constater, notre société s'enfonce, disons, dans une sorte de lutte civile, de méfiance civile, voyez-vous, réciproque. Et là-dessus, évidemment, ça paralyse complètement le corps social. Je répète, M. Hugon ne dira pas le camp l'inverse. Il y a d'ailleurs un affaiblissement très très net de la classe moyenne chez nous. Je crois que c'est dans tous les pays, mais particulièrement en France. Je dirais particulièrement en France, dans toute l'Europe. Et en Angleterre, il y a évidemment cette immigration qui est allée jusqu'à la mairie de Londres. Alors, vous avez des gens très bien dans l'immigration, naturellement. Mais il y a également des groupes qui viennent, disons, qui sont, comment vous dire, qui sont les clients de ceux qui les agitent.
Monsieur Hugon, Monsieur Dertiguier avance des propos très intéressants. Bon, je suppose que vous allez donc analyser ces propos.
Oui.
Oui, Monsieur Hugon.
Oui, alors, là, je ne peux pas vraiment contredire Pierre Dertiguier, hein, puisque c'est exactement mon avis. On a actuellement une situation qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement conflictuelle entre non seulement les générations, mais les milieux sociaux, les nationalités, je dirais, différentes, hein, les Français de souche et les Français d'origine étrangère. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une situation qui est extrêmement complexe, que d'un point de vue économique. Donc, on voit des gens qui vivent de plus en plus mal. Donc, on va essayer, enfin, l'État, du moins les États occidentaux, essayent par tous les moyens aujourd'hui d'abaisser le niveau de vie afin que les gens soient moins demandeurs financièrement.
Monsieur Hugon, oui, donc vous dites que bon, le gouvernement, que ce soit le gouvernement français que britannique, essaye donc d'habituer les Français et les Britanniques à une vie plus modeste.
Ah ben ça, c'est une certitude. Hein. Il faut bien savoir que le modèle occidental est un modèle qui est condamné et que les Français, comme les Européens et les Occidentaux, d'une manière générale, ont vécu dans une abondance, une opulence qui devient aujourd'hui insultante vis-à-vis des populations du monde. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les populations du monde occidental ne sont pas du tout prêtes à accepter ces nouvelles contraintes, cette nouvelle évolution, ce nouveau modèle de société, puisqu'on n'aura pas la possibilité de pouvoir maintenir un tel niveau de vie, et il faudra que les Français et les Occidentaux s'habituent à vivre d'une façon beaucoup plus modeste. On vit aujourd'hui d'une façon insolente vis-à-vis d'un grand nombre de peuples. Hein. Vous pouvez le voir d'ailleurs au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, enfin dans un grand nombre de pays, des gens qui ne bénéficient pas non seulement de couverture sociale, mais qui ne bénéficient pas non plus de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire que vous avez des tas de gens qui ne mangent pas à leur faim dans le monde. Donc notre modèle de société occidentale va disparaître, qu'on soit d'accord ou pas avec ce que je dis aujourd'hui, ça ne changera rien aux réalités de la situation. Hein. J'ai vu récemment d'ailleurs un rapport sous les yeux, c'est les réserves de poissons en Polynésie française, et je rappelle que la Polynésie française, c'est la superficie de l'Europe, et bien ces réserves de poissons, ces réserves halieutiques, ont baissé de 70% en 10 ans. Et on peut le voir également dans toutes les campagnes françaises, si vous ne mettez pas des engrais et des pesticides, vous n'arrivez plus à faire pousser une salade. Donc on va arriver dans le mur du problème alimentaire. Personne aujourd'hui, et aucun grand média bien sûr, n'ose aborder le sujet, puisqu'elle mériterait, cette situation, de prendre un certain nombre de décisions qui ne vont pas dans le sens des politiques, puisque les politiques, on sait très bien quels sont les besoins des politiques, c'est d'une part de se faire réduire et d'autre part de garder le pouvoir, de le conserver. Après, ce qui arrive après, ça ne nous concerne plus vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est de conquérir le pouvoir et de le garder. Donc, on sait très bien que les décisions, les bonnes décisions politiques ne seront jamais prises, puisque les politiciens occidentaux n'ont aucune conviction et n'ont aucun courage. On peut dire que politicien aujourd'hui, dans le monde occidental, ça peut être synonyme de lâcheté. C'est tout à fait ce qui se passe. Et on arrivera, bien sûr, à une situation Absolument. Qui sera totalement ingérable. D'ailleurs, on peut constater aujourd'hui que ce cycle-là, ce cycle incontrôlable a déjà commencé et va nous amener dans une situation catastrophique dans les 8, 10, voire 12 ans qui viennent.
Pierre d'Ortiguier, est-ce que les Français ou les Britanniques sont prêts à s'habituer à ces contraintes, à cette nouvelle évolution ?
Non, les Britanniques, plus que les Français, et je crois malheureusement que les Français ne sont pas du tout habitués à cela, parce qu'ils sont trompés, ils vivent dans cette illusion. Ils vivent dans l'illusion que, disons, prenons le XXe siècle, mais je ne veux pas aller loin, on a dit aux Français, vous êtes sortis vainqueurs de la guerre de 14-18, vous êtes sortis vainqueurs de la guerre de 39-45. Et un de nos généraux, qui était connu, qui était lieuté, avait dit avant la guerre de 14-14, cette guerre est le suicide de l'Europe. C'est-à-dire que notre victoire a été fondée sur la naissance d'un pouvoir international, financier, voyez-vous, qui en réalité a modifié complètement la vision traditionnelle de la civilisation. Et ceci dans tous les pays. Et ça, en Orient, cela s'est produit par l'effondrement de l'Empire ottoman. Il avait des défauts, bien sûr, il a peut-être plus que des défauts, mais en fait, il avait quand même eu une certaine durée, disons, avec une coexistence des confessions. Il y a eu, vous savez comment l'Iran a été traité au XXe siècle. Je crois que cette violence, disons, dans les rapports, cette loi, disons, de l'économie, mais pas dans le sens de l'économie traditionnelle, cette loi du plus fort, disons, elle s'est imposée, elle s'est aggravée après, justement, ce qu'on nous a présenté comme étant des victoires. En fait, notre victoire a été une défaite sur le plan social, sur le plan moral, je peux le dire comme professeur de philosophie, que j'étais longtemps, sur le plan culturel, évidemment, sur le plan éducatif. Là, on assiste justement, c'est-à-dire que la violence dont vous parlez, monsieur, aujourd'hui, c'est une violence qui va s'accroître. Et là, je rejoins Philippe Picon, d'une autre façon. Parce que les générations que l'on... On ne les prépare pas. On les encadre, mais sans les préparer, sans leur donner une confiance morale, sans leur ouvrir les yeux sur autre chose que la consommation immédiate, vous voyez. Tout ceci a été un rêve matériel réel, mais un rêve cependant, dans les années 80-90. Et maintenant, nous payons ce rêve. Monsieur, je vais dire une dernière chose. Je suis obligé de soutenir Monsieur Hugon et de donner une citation d'un de nos grands ministres, qui a été Raymond Barre, qui était professeur d'économie, vous savez, c'est au moment du Destin. Il a dit un jour à la Chambre des députés, la France vit au-dessus de ses moyens. Bien. Et en effet, nous vivions à crédit. Quand le socialisme est venu en France avec M. Mitterrand, nous avons vécu, nous avons demandé à des créditeurs, disons, car c'était, vous le savez, l'Arabie Saoudite, entre autres, par exemple, de nous donner de l'argent pour payer des fonctionnaires ou des cadres. Ceci, c'était une politique aveugle. C'était une politique, là, qui n'avait pas de sens. Et elle, en plus, nous nous mettons à dos l'ensemble du monde, vous le savez, avec la politique de M. Sarkozy contre la Libye, etc., la politique anglaise, la politique de Mme Clinton et autres. Et je dois dire que nous avons devant nous des bouleversements profonds. Ça, c'est un point. Ce qui est grave, c'est que, et très très grave, c'est que nos jeunes générations, ou les générations, disons, jusqu'à 40 ans, 50 ans, ne sont pas prêtes mentalement, moralement, je ne dis pas religieusement, puisque nous avons ici, pour ne pas garantir religieuse, ici, très très forte, vous savez, dans l'enfance en particulier, dans les écoles, eh bien, elle n'est pas prête à comprendre la situation, et donc par la même à la supporter. C'est pour ça qu'il y a des vagues de suicides. Je ne dis pas qu'il y a beaucoup de suicides, mais je n'avais jamais entendu parler autant de suicides d'étudiants qu'aujourd'hui, par exemple. Voyez-vous, et c'est ça qui va se convertir en violence, qui se convertit déjà, nous avons des signes, des attaques. Alors, évidemment, ça peut prendre des formes politiques, avec des slogans politiques, mais en réalité, c'est un bouleversement social, et là-dessus, il faut que tous les peuples sachent qu'ils sont, c'est ça ma conclusion, qu'ils ont affaire à la même situation, à des degrés différents, mais que nous sommes solidaires quand même dans le malheur.
Oui, Monsieur Philippe Hugon, pour terminer, qu'est-ce qui attend la France et la Grande-Bretagne dans les années à venir? Est-ce que ces manifestations vont se multiplier? Alors pourquoi les gouvernements, en adoptant des lois lâches, provoquent la jeune génération de manifester?
Oui, alors ces manifestations non seulement vont se multiplier, mais vont s'amplifier puisqu'il y a une situation financière qui malheureusement se dégrade d'année en année. On va arriver bien sûr à un point de rupture dans les années qui viennent. Je ne dis pas que c'est pour demain, mais pour après-demain. Je dirais 8, 10, 12 ans. On va arriver à une situation tellement critique que les gens vont tomber dans une violence inouïe, une violence inimaginable. Moi, je dirais que les Français n'imaginent pas à quel point leur situation va changer dans les 10 ans qui viennent. C'est pour eux, c'est une chose impensable et inconcevable que l'on puisse se retrouver dans une situation aussi catastrophique. Malheureusement, cette situation va bien sûr s'aggraver et on verra d'ailleurs de nombreuses personnes y étaient dormies, puisque je pense que si les États veulent maintenir une certaine force, eh bien ils en viendront à tirer sur les populations comme l'ont fait certains pays en Europe il y a quelques dizaines d'années, hein, puisqu'on va arriver à une telle anarchie. Hein, dont on le voit déjà pour des petites choses, hein, qui créent déjà des situations qui sont délicates, mais dès l'instant où le système financier s'effondre, puisque ça c'est même plus discutable, la seule question aujourd'hui c'est de savoir quand cette situation, ce point de basculement va arriver, mais ça va tomber non seulement dans une extrême violence, mais ça va être d'une extrême rapidité. Et je pense que ça, c'est quelque chose que même les États ont du mal à pouvoir contrôler au niveau du temps. Je parle bien sûr, hein. Mais la situation va devenir extrêmement catastrophique et ne pourra pas être récupérée puisqu'il n'y aura plus la confiance dans rien. Toutes nos bases vont s'effondrer, qu'elles soient économiques, sociales. Plus personne ne pourra compter sur personne. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on arrivera à cette situation et qui sera bien sûr totalement incontrôlable dans les années qui viennent. On le voit déjà aujourd'hui, la situation devient de plus en plus critique. Et même avec des lois sanitaires, on voit beaucoup de Français défier ces lois sanitaires. Et pas seulement en France, mais c'est dans l'ensemble du monde occidental. Et le jour où tout ceci va basculer, eh bien ce sera vraiment extrêmement dangereux, extrêmement grave pour nos situations politiques dans le monde occidental.
Et surtout, M. Hugon, cette situation économique désastreuse, un pays en faillite, je me rappelle que vous disiez dans le débat précédent de la France.
Ah oui, ben la France est en faillite financière, mais les États-Unis sont également dans une faillite financière. L'Allemagne est dans une faillite financière, la Grande-Bretagne est dans une faillite financière. L'ensemble du monde occidental a vécu depuis 50 ans très au-dessus de ses moyens financiers. Alors, tant qu'on avait un développement économique à 18, hein, on pouvait, la croissance permettait d'absorber ce déficit. Aujourd'hui, on n'a plus de croissance, ce n'est pas vrai, on est en décroissance, particulièrement maintenant avec ce problème de Covid. Donc, l'Union européenne et les États-Unis sont en faillite financière. Donc, je rappelle quand même que face au Covid, on a imprimé 600 milliards d'euros de fausse monnaie. Quand je dis de fausse monnaie, c'est parce que c'est une monnaie qui n'est adossée à aucune sécurité derrière. Elle n'est adossée à aucune garantie derrière. Donc ce n'est plus ni moins que la fausse monnaie. Donc ce système-là peut durer un certain nombre d'années, mais on arrivera à une situation qui sera inextricable et seul un effondrement financier permettra de remettre les choses au point. Le problème, c'est que cet effondrement financier va créer un nombre de catastrophes familiales, sociales. Ça va être effroyable. Je vous dis bien, personne aujourd'hui n'imagine à quel point la situation sera terrible.
Philippe Hugon, reporter de guerre et analyste politique depuis Paris, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir apporté donc beaucoup de précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Le président tunisien Kais Saied a reçu ce jeudi un message de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, annonçant la présidence de la République tunisienne. Dans un communiqué, la présidence tunisienne a indiqué que ce message a été transmis par le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, reçu ce jeudi au palais présidentiel de Carthage à Tunis. L'entretien a porté, selon le communiqué, sur les relations historiques qui unissent les deux pays ainsi que les moyens susceptibles de les promouvoir. Les deux chefs d'État ont également évoqué la situation dans la région. Cité par la présidence de la République, de Kais Saied a assuré à son homologue algérien que le développement de la coopération et du partenariat entre les deux pays, outre le renforcement de la coopération sur les questions bilatérales, régionales et internationales, constitue un choix durable. Dans ce sens, M. Saied a transmis au président algérien ses sincères salutations en lui faisant part de sa forte détermination à continuer à œuvrer de concert pour réaliser les aspirations des deux peuples frères à davantage de solidarité et de complémentarité. Dans une déclaration après sa rencontre avec le président tunisien, le chef de la diplomatie algérienne s'est félicité de la qualité des relations distinguées, unissant son pays avec la Tunisie et les deux peuples respectifs, estimant par la même occasion que la Tunisie et l'Algérie partagent un passé glorieux et se trouvent face à des défis communs avec les mêmes attentes pour davantage de progrès, de prospérité, de paix et de stabilité. «
Le Premier ministre Guinéen Ibrahim Kassori Fofana a reçu en audience le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, Jean-Claude Cassi Brou, pour discuter de la paix et des grands enjeux de développement de l'institution sous-régionale qui regroupe 16 pays membres selon Chinois. Au menu de leurs échanges se trouve également la stabilité dans la sous-région face à la menace du terrorisme, le renforcement de la sécurité le long des frontières, ainsi que la coopération économique entre les États membres de la CDAO. Cette audience nous a permis de faire le point de la coopération entre la CDAO et la République de Guinée, a indiqué M. Brou à la sortie de cet entretien. Selon lui, les discussions entre sa délégation et le chef du gouvernement guinéen ont aussi permis d'examiner la question du vaccin contre le COVID-19 qui continue de sévir dans la région ouest-africaine avec un coût humain et sanitaire élevé, mais aussi un coût économique et financier qui frappe tous les pays. Donc, nous avons échangé sur les différentes actions, les différentes initiatives qu'il faut entreprendre afin d'aider les pays à trouver une solution à cette question importante, a-t-il poursuivi. Pour sa part, au nom du gouvernement de Guinée, M. Fofana a salué l'initiative de la CDAO auprès des États membres avant de rassurer M. Brou de l'engagement de son pays dans l'accomplissement des attentes des autres États membres. Le gouvernement du Niger annonce avoir déjoué une tentative de coup d'État. Une tentative de coup d'État a été déjouée à Niamey dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé le porte-parole du gouvernement nigérien, Zakaria Abdourahmane, dans un communiqué publié ce mercredi. D'ores et déjà, plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d'État sont interpellées et d'autres activement recherchées, indiqué M. Abdourahmane, ajoutant que des investigations se poursuivent pour identifier et interpeller les auteurs et leurs complices afin de les mettre à la disposition de la justice. Il en est de même pour les commanditaires internes et externes. Le gouvernement condamne cette attaque lâche et rétrograde, voulant mettre en péril la démocratie et l'état de droit dans lequel notre pays s'est résolument engagé, a-t-il poursuivi. Selon lui, le gouvernement a rassuré que la situation est totalement sous contrôle. Il a également invité la population à vaquer normalement à leurs occupations quotidiennes. Le porte-parole du gouvernement nigérien a également félicité la garde présidentielle et les autres forces de défense et de sécurité du pays pour leur prompte réaction, témoignant ainsi de leur loyauté et leur fidélité vis-à-vis de la République. Le Nigeria utilisera pleinement ses ressources gazières dans sa campagne d'industrialisation, déclare le président nigérian. Le président nigérian Muhammad Buhari a déclaré que le gouvernement utiliserait pleinement les ressources gazières abondantes du Nigeria pour stimuler l'industrialisation et développer l'économie du pays. Monsieur Buhari, qui s'exprimait à l'occasion du lancement de la décennie du gaz au Nigeria, une campagne visant à développer l'industrie nationale au cours des 10 prochaines années, a déclaré que, avec les réserves gazières potentielles du pays estimées à près de 17 000 milliards de mètres cubes, cette ressource naturelle offrait un potentiel énorme pour diversifier l'économie du pays. La demande mondiale croissante de sources d'énergie plus propres offre au Nigeria l'opportunité d'exploiter les ressources de gaz pour le bien du pays. Nous avons l'intention de saisir cette opportunité, a affirmé le dirigeant nigérian. Il est bien connu que le Nigeria est un pays gazier avec une petite réserve de pétrole. Pourtant, notre pays s'est concentré sur son pétrole depuis des années, a-t-il dit, soulignant que son administration avait désormais de donner la priorité au développement du gaz et réaliser des progrès remarquables. Côte d'Ivoire, deux soldats et un gendarme ont été tués dans deux attaques survenues contre les positions des forces armées dans le nord du pays, a confirmé l'état-major des armées ivoiriennes dans un communiqué. Cité par le communiqué, le général Doumbia Lassina, chef d'état-major général des armées ivoiriennes, a indiqué que deux positions de forces armées de Côte d'Ivoire ont subi des attaques armées dans la nuit de dimanche à lundi. La première est survenue à Kafoloou et le fait d'une soixantaine de terroristes lourdement armés venant du Burkina Faso, a-t-il précisé. Le bilan provisoire fait état de deux soldats tués et quatre blessés côté ami. Et côté ennemi, trois terroristes tués, quatre interpellés et du matériel logistique saisi. Les forces armées de Côte d'Ivoire ont repoussé les assaillants au terme d'une heure de combat intense et mis en œuvre une opération de ratissage en cours sur le terrain selon le communiqué toujours. La deuxième attaque est survenue à Kolombougou, près de la frontière avec le Burkina Faso, où un poste de gendarmerie a été la cible d'individus non identifiés, précise toujours dans son communiqué l'état-major des armées ivoiriennes. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, cette émission consacrée à l'actualité africaine s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.